Les infos à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information. Il est 19h en temps universel. La police malienne a annoncé des mesures disciplinaires après la diffusion d'une vidéo suggérant que des passagers arrivés à l'aéroport international de Bamako sont entrés sur le territoire sans croiser de policiers ni subir de contrôle. Un agent de la direction des aéroports s'est permis d'ouvrir les portes en violation des procédures, indique la police, précisant que les ministres de la Sécurité et des Transports se sont rendus depuis à l'aéroport. Des mesures disciplinaires ont été prises contre les agents qui étaient en poste, a souligné la police, ajoutant que des dispositions seront prises afin que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les élections législatives et municipales au Cameroun, qui avaient été reportées, se tiendront le dimanche 9 février, annoncé par décret la présidence. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de prolonger le mandat des élus. La participation à la présidentielle de l'an dernier ayant conduit à la réélection de M. Biya au pouvoir depuis 37 ans a atteint à peine 5% dans la région anglophone du Nord-Ouest. Dans l'est de la RDC, 4 civils ont été tués par des assaillants hier soir dans la région de Beni. L'attaque contre Eringeti a été attribuée aux rebelles islamistes ADF. L'armée indique avoir tué 25 rebelles et perdu 6 hommes dans son offensive ces derniers jours. Par ailleurs, l'armée congolaise a affirmé avoir tué samedi Moussa Bimana Juvenal, un chef des rebelles FDLR, dans le nord Kivu, indiquant que les opérations militaires se poursuivent dans le territoire de Rutshuru. Invité d'honneur du Forum sur la paix de Paris, le président congolais Félix Tshisekedi est attendu de lundi à mercredi en France puis en Allemagne après une visite officielle en Belgique en septembre dernier. En chemin, il s'est arrêté en Ouganda pour évoquer avec le président Yoweri Museveni la question de la lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC. La coalition du Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth, qui a largement remporté les législatives de jeudi, dispose de 42 sièges sur 70 à l'Assemblée, a annoncé la commission électorale, qui a procédé hier soir à la désignation des 8 derniers députés parmi les meilleurs perdants. L'Alliance mauricienne avait déjà obtenu vendredi la majorité absolue en remportant 38 des 62 sièges de députés élus directement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président de l'Assemblée nationale bolivienne, Victor Borda, a démissionné après l'incendie de son domicile par des manifestants qui contestent depuis 3 semaines la réélection au premier tour du président Evo Morales. Une annonce faite peu après la démission du ministre des Mines, César Navarro, et de celui des hydrocarbures, Luis Alberto Sanchez. Plus tôt dans la journée, le président a annoncé qu'il convoquerait de nouvelles élections. Plusieurs dirigeants de l'opposition l'ont appelé à démissionner. L'Organisation des États américains avait demandé l'annulation de la présidentielle et demandé la convocation de nouvelles élections. Des milliers de Libanais ont manifesté ce dimanche pour la 4e semaine consécutive contre la classe dirigeante jugée corrompue alors que la crise économique s'aggrave et qu'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre 2 semaines après la démission du Premier ministre sous la pression de la rue. Les États-Unis feront le maximum pour garder la Turquie parmi leurs alliés, a affirmé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Robert O'Brien, en pleine tension entre Washington et Ankara. La Turquie est un membre de l'OTAN, elle joue un rôle très important. La perdre en tant qu'allié ne serait donc une bonne chose ni pour l'Europe ni pour les États-Unis, a-t-il déclaré sur la chaîne CBS. Le cyclone Bulbul qui a frappé le Bangladesh et l'Inde avec des vents violents et des pluies torrentielles a fait 20 morts et contraint 2 millions de Bangladais à passer la nuit dans des refuges anti-tempête, ont annoncé les autorités. Et voilà pour ce bulletin. Le prochain, dans moins d'une heure, restez avec nous sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, Eric Manela qui est avec vous dans ce dialogue des religions. Bienvenue. Ce soir, nous parlons de la lutte contre l'extrémisme dit religieux. Le chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, né Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, a été tué le 26 octobre 2019 en Syrie au cours d'une opération des forces spéciales américaines. Vous avez également suivi la mort du Marocain Abou Abdelrahman al-Maghrebi, annoncé par la France. C'est le leader d'un groupe proche d'Al-Qaïda qui a été donc tué au début du mois d'octobre au Mali. Quel est l'impact que ces décès peuvent avoir sur l'extrémisme dit religieux? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le monde et pour les religions qui sont en général caractérisées par le message de paix? C'est la question centrale dans ce dialogue des religions. Nous avons notre invité, le professeur Jean-Pierre Caleguéyé, qui est spécialiste des religions et qui fait des recherches sur l'extrémisme dit religieux. Jean-Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, d'une façon globale, c'est deux sujets différents, mais sous un angle religieux, est-ce que on peut dire que ça va atténuer l'extrémisme qu'on voit?
Oui, non, je crois que c'est un sujet qui doit intéresser la religion. D'abord, je voudrais d'abord commencer par là. Ça intéresse la religion parce que de plus en plus, on convoque la religion aussi pour participer ou pour trouver une solution à ce qui est défini comme extrémisme religieux. Et il y a un très grand document qui avait été produit par les Nations Unies et c'est un document qui concerne justement les chefs religieux en leur demandant de participer au projet de paix. Donc ça fait, je crois que c'est un sujet qui intéresse la religion. Est-ce que c'est la fin, pour revenir à votre question, pour dire que c'est vraiment la fin de l'extrémisme religieux? Je ne pense pas. Peut-être comme question relative à la sécurité, je dirais oui, c'est un pas de plus. En termes de guerre, donc là, on touche au centre de commandement. Donc, c'est important. Cependant, l'idéologie de l'État islamique demeure intacte. Et surtout, ce n'est pas encore la fin de l'État islamique. Donc, je ne pense pas que ce sera la fin. En fait, rappelez-vous que le fondateur de l'État islamique, Abu Musab al-Zahrawi, qui faisait au début partie des Al-Qaïda, il avait été tué par l'armée américaine, ça c'était en 2006, et aussitôt remplacé par un Égyptien, Abu Ayyub el-Masri. Il est aussi assassiné en 2010 dans une opération conjointe américano-irakienne. Et voilà, donc maintenant la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui vient aussi d'être remplacé par quelqu'un d'autre, Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Donc ça signifie, c'est un cycle, n'est-ce pas? Donc ils auront toujours quelqu'un pour diriger l'État islamique tant que l'idéologie n'a pas été éradiquée.
Gardez la ligne, nous avons un auditeur, c'est Norbert Mukendi. Bonsoir.
Bonsoir, c'est les journalistes.
Voilà, vous avez suivi la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le monde et pour les religions qui sont en général caractérisées par le message de paix?
Négatif. La mort de Abou Bakr al-Baghdadi est une mauvaise nouvelle pour l'été de la planète. Dans le fait que l'État, l'Abbakar al-Baghdadi était un leader, mais l'État islamique est un système enraciné qui est mis en place, qui est d'assombre dans les pays. Nous ne pouvons pas, la planète ne peut pas se réjouir de sa mort. Plutôt, la planète ne veut que l'État de créer les logistiques, les moyens efficaces pour démanteler le système État islamique qui est dans la planète, qui cause des morts, qui cause des tueries, afin de les mettre hors état de nuire. Donc, nous ne pouvons pas nous réjouir de sa mort, car ça risque de provoquer encore des pires dorénavant. Et par rapport aux discussions faites par les religieux, ce sont des discussions, le monde, nous ne pouvons pas céder à ces discussions, car ces discussions ne nous apporteront rien. Car on ne peut pas négocier avec les diables. Nous devons plutôt faire face, créer des logistiques, des moyens efficaces pour démanteler ces systèmes et les mettre hors état de nuire. Et c'est ça l'objectif et l'objectif ultime que le monde doit faire face maintenant. Nous sommes maintenant en face d'un grand combat. L'État islamique est maintenant fort et il est fort et il s'est mis maintenant pour revendiquer la mort de son leader. Maintenant, on est en face d'un grand combat. On doit créer des moyens pour mettre ce système au état de nuire. Donc, il n'y a plus moyen que qu'on se réjouisse de la mort d'Al-Baghdadi, car c'est une personne, mais l'État islamique est un système qui est enraciné. On doit déraciner ce système pour que le monde soit en paix.
Merci Norbert. Nous avons Excellence Naël. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute, Naël.
Donc, par rapport à ce sujet, moi je pense que la mort d'Aboubakar ne suffit pas pour éradiquer
l'extrémisme.
Parce que déjà, excusez-moi. Parce que, selon moi, c'est toute une organisation et. Lorsqu'on parle d'organisation, il y a la hiérarchie. Donc, on voit le chef suprême et après le chef suprême, on a ceux qui aident le chef. C'est comme je l'ai dit dans mon commentaire sur Facebook, c'est comme dans une équipe de football, on a le capitaine et le vice-capitaine. Lorsque le capitaine n'est pas apte de jouer, on a le vice-capitaine qui peut remplacer et jouer la fonction du capitaine de l'équipe. Donc, cela ne suffit pas à l'extrémisme de. En fait, cela ne suffit pas à arrêter l'extrémisme. Donc, ce qui est là, c'est de chercher d'autres moyens, de chercher d'abord la source. Comment eux, ils ont la possibilité d'avoir des armes. Comment ils opèrent.
Naël.
Voilà,
c'est ça. Naël.
Oui.
Il y a une motivation avant tout, et très souvent, ce sont des motivations religieuses.
Bien sûr. Guides. La motivation, elle est idéologique, bien sûr, mais il faut connaître, il faut essayer de connaître, de déterminer ses sources.
Merci Naël pour votre contribution. Mohamedou, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Mohamedou, je vous écoute.
Bon, voilà, sur la question par rapport à la mort de al-Baghdadi, bon, je dirais qu'on ne pourrait pas concevoir cela comme une bonne nouvelle, dans la mesure où, juste après sa mort, son successeur était prêt à prendre le relais. Et donc, cela signifie que ces extrémistes font preuve d'une détermination à continuer le combat. Et par conséquent, il y a des risques que les dégâts qui sont en train de causer partout dans le monde ne s'intensifient si ça ne l'est pas déjà. Et donc cette violence fait preuve, je ne dirais pas le fait que Baghdadi, juste après sa mort, qu'il est un remplaçant, le fait accentuer le fait que ces gens sont déterminés à continuer leur supposé combat pour une cause que je ne saurais identifier ou défendre en quelque sorte. Et donc voilà, pour résumer, on peut dire que la mort d'Al-Baghdadi ne saurait être une bonne nouvelle.
Mais Mohamedou,
Oui.
On veut voir quel serait l'impact justement sur l'extrémisme religieux qu'il véhiculait.
Oui, l'impact, comme je vous l'ai dit, juste après, vous savez, depuis Ben Laden, bien avant même Ben Laden, le terrorisme a été un facteur, le terrorisme dit religieux a été un soubassement, c'est-à-dire les fondements ont été souvent, on allait chercher souvent les fondements sur des explications religieuses. Et donc aujourd'hui, si Baghdadi tire sa révérence, entre guillemets, et tout de suite après qu'il est remplacé, on peut concevoir l'étendue de la motivation qui anime ces gens, la motivation qui les anime. Mais je ne pourrais pas dire qu'ils sont motivés ou bien qu'ils sont dans une lutte religieuse. Non, je ne pourrais pas le dire parce que s'ils sont dans une lutte religieuse, de quelle affiliation parlent-ils ? Au nom de quelle affiliation ? Et donc aujourd'hui, l'extrême religion, malheureusement, se paye la religion en quelque sorte pour continuer à perpétrer ses actes comme on le voit tout le temps au niveau des médias et des réseaux sociaux.
Mouhamadou, avant de te laisser partir, mais sa capacité de mobilisation et de manipulation religieuse était quand même énorme, c'est-à-dire que maintenant il y aura moins de victimes qui seront embarquées dans cette folie.
Parce que les personnalités ou bien le pouvoir politique a su investir en quelque sorte sur des moyens de lutte contre l'extrémisme. Par exemple, ici au Sénégal, le système confrérique a été l'élément moteur de cette lutte contre l'extrémisme violent. Mais aussi l'éducation. Comment est-ce que l'éducation peut être un facteur idéal? Parce que ces jeunes qui sont embrigadés, ce sont des jeunes qui sont dans des situations précaires, qui sont récupérés dès le bas âge, et donc qui sont faciles à embrigader. Et donc si on investit davantage sur l'éducation, mais sur des valeurs locales, hein, on peut bel et bien réduire cette capacité d'impact de l'idéologie terroriste en quelque sorte. Et donc ça ne va pas être une chose facile, bien vrai, ça ne va pas être une chose facile. Mais il faut persévérer dans cette dynamique et aussi ne pas tout le temps se focaliser sur la dimension militaire tout le temps. Bon, depuis Ben Laden, on sait que cette méthode ne marche pas très bien. Et donc aujourd'hui, si les gens continuent à adhérer au sein de ces mouvements, c'est parce que le système de lutte n'est pas trop efficace. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle lancée que les autorités politiques étatiques ont entrepris, on espère avec l'éducation, les valeurs locales qu'on arrivera à freiner la montée de l'extrémisme en quelque sorte.
Merci Mouhamadou Mansour Ndong. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 au Centre d'études des religions au Sénégal. Jean-Pierre, vous avez entendu nos trois auditeurs un commentaire là-dessus.
Et, excusez-moi. Donc, je crois que il y a dans ce qu'ils ont dit, c'est très important. Il y a donc certainement une dimension militaire qui intéresse les États, donc comme un des moyens et qui est utilisé. Cependant, et pour éradiquer l'extrémisme religieux, si on pourrait appeler ça religieux.
Oui, quels sont les moyens possibles, justement?
Aussi, c'est discutable. Et je crois qu'il faut chercher aussi les causes premières, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'État islamique, mais on oublie de revisiter les racines de l'État islamique. Donc, s'il faut éradiquer l'État islamique, il faut donc revisiter les racines. Donc, l'État islamique qui est né en 2004. Et qu'est-ce qui précède en 2004? Donc vous avez 2003 et la destruction de l'Irak, donc la mort de Saddam Hussein, et lui-même qui n'était pas qui était religieux, qui n'était pas un religieux radical. Donc il avait un gouvernement qui était plutôt laïque, lui-même musulman, et bien sûr. Et donc, et au niveau de l'Irak, vous avez les deux grandes représentations musulmanes, les deux grands groupes, donc vous avez les sunnites et vous avez les chiites. Et donc ça fait qu'il y a un problème religieux, mais je dirais vraiment lié plutôt à la politique. Donc ça fait la mort de Saddam Hussein que ça a créé, donc il y a une crise en Irak, et puis il y a un groupe, les sunnites, qui pensent qu'ils seront en danger, parce que le pouvoir est remis dans une certaine mesure aux chiites. Donc ça c'est vraiment important. Donc la réaction de l'État islamique, donc c'est un groupe qui est plutôt fait par des sunnites et donc qui réagissent à une nouvelle configuration politique.
Et est-ce donc, qu'il n'y a pas une approche religieuse qui peut être appliqué pour justement...
Il peut y avoir une approche religieuse, mais c'est-à-dire ici, dans tout ce qu'on appelle par exemple extrémisme religieux, c'est-à-dire la religion c'est une arme parmi tant d'autres. C'est-à-dire, c'est, les gens étudient ce qu'ils ont comme moyen, donc, mais sans justifier, évidemment. Et donc, dans le cas, par exemple, de l'État islamique, le point de départ, on ne peut pas séparer le politique du religieux. Mais le point de départ, donc, c'est comme une question identitaire. C'est un groupe qui se croit lésé à ce moment, et donc, utilise donc la religion contre d'autres groupes aussi religieux et contre ceux qu'ils estiment être des occupants, c'est-à-dire les forces étrangères, en l'occurrence américaines. Donc ça, c'était le point. Parce que si vous parlez, si vous voulez réduire ça à l'État, au niveau religieux, et comment expliquer les conflits qu'il y avait entre Al-Qaïda et État islamique? Parce que les deux se réclament aussi du religieux. Mais c'était deux groupes et qui avaient des idées différentes. N'est-ce pas? Et d'où la séparation au début, donc la séparation qu'il y a eu, et puis donc c'est ça. On ne peut pas réduire ça à la religion. Et pour éradiquer ça, je dirais donc ça, sur le plan sécurité, on peut penser à l'armée, mais je crois que des négociations sont très possibles.
On va y revenir, nous avons un auditeur en ligne, c'est Ozana. Ozana, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le ministre, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la VOA Afrique.
Vous avez la parole.
Moi, je pense que la mort d'Al-Baghdadi va plutôt donner de la motivation au groupe terroriste. Parce que ces bandits de grâce et l'air vont chercher à se venger en faisant plus de victimes. Donc, on doit plutôt craindre aussi le sort des innocents. Et je pense que la mort. Le chef terroriste ne va pas être la paix aussi du terroriste dans le monde. Donc, comme par exemple, je prends l'exemple du terrorisme en Afrique, il faut plutôt chercher des stratégies à comment faire pour arriver à neutraliser l'attaque des actions de Tunisie, de l'UNIFA. Donc, moi je pense qu'il faut plutôt être vigilant. Et que les humains qui ne sont pas d'accord avec les terroristes doivent essayer de chercher à dialoguer, à essayer de les pécher. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir que c'est le nom de l'islam qui est en train d'être détruit. Donc, ces humains ont un grand travail à faire, surtout au niveau de la sensibilisation et si possible même négocier. Pour essayer de changer un peu les dons. Je pense que j'ai dit le terrorisme est en train de gagner le monde entier. Et cela fait qu'il y a la crainte de partir.
Merci. Merci, Ozana. Nous avons Asmaïlou. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez la parole, Asmaïlou.
Oui. D'abord, c'est un phénomène qui est déjà né grandi et qui continue de propager le monde. Parce que sa mort n'a rien à voir, parce que derrière tout ça, derrière lui, il y a ceux qui financent, ceux qui soutiennent ça et les amateurs. Donc aujourd'hui, c'est une organisation que le monde, tout le monde entier doit s'organiser pour pouvoir au moins chercher par quel moyen, pouvoir chercher à trouver les moyens possibles pour affaiblir ce système. Parce que c'est un système qui continue de propager. Au même moment, ça, il est mort, déjà, il y a déjà ceux qui sont déjà prêts à lui succéder et continuer le travail comme il le faut.
Donc, oui. Moi, je Asmaïlou?
Vois que là-bas...
Asmaïlou?
Oui?
Quelle pourrait être l'implication, par exemple, des religions, justement, pour contribuer à ce que cet extrémisme diminue ou soit éradiqué?
Bon, d'abord, il y a déjà les chefs religieux qui sont là, eux aussi, ils maintiennent le cap. Mais moi, je vois que là-bas, le fait de dire, de choisir que c'est au sommet de cette religion, moi, je trouve ça encore flou. Parce que d'abord, c'est un esprit que d'autres ont adapté et ils se sont reliés à la religion pour faire avancer les choses.
Merci à Smaïlou. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir. Alphonse.
Allô.
Oui, Alphonse, je vous écoute.
Vous savez qu'avec la mort de Bambadi, je ne pense pas que le terrorisme va être éliminé. Donc, parce qu'il y a beaucoup de tentatives, hein, il y a beaucoup de chefs, donc sa mort va donner la succession à un autre. Que ce soit Al-Qaïda, que ce soit l'État islamique, ce sont des tentatives. Donc, il y a quelqu'un qui va remplacer. Donc, le FMI ne va pas s'attaquer seulement par les moyens militaires ou des moyens armés. Je pense que le dialogue est très important entre religieux. Encore, à part le dialogue, je pense que c'est envisager une rencontre avec les terroristes, avec les chefs, pour négocier. Je pense que c'est une solution qui est aussi acceptable. Hein.
Merci Alphonse. Vous proposez donc un dialogue avec ces extrémistes. Nous avons Théodore Archéduc. Bonsoir.
Oui, bonsoir la VOA et bonsoir à tout le monde.
Vous avez la parole, Archéduc.
Ok, pour moi, la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi est un processus important qui va contribuer à réduire les pays religieux. Néanmoins, il faudrait aussi doubler de force dans le combat contre les pays en investissant beaucoup plus dans l'espionnage. C'est un peu pensé que les terroristes font des choses en cachette et que grâce à l'espionnage, on pourra arriver à détecter certaines forces qui continuent de neutraliser les terroristes et l'espionnage.
Merci Archéduc. Nous avons le commentaire de Alassane Diallo qui dit que même la mort de Bin Laden n'a pas affaibli l'extrémisme religieux. Bardet, il dit que c'est un grand pas vers la paix et la fin de l'extrémisme religieux. Toutefois, il ne faut pas baisser les bras. Marie-Jeanne Abega, le X, c'est l'intransigeance de ces leaders religieux extrémistes qui imposent par la force et leur idéologie la réconciliation par la voie de dialogue et la bonne approche. Mais est-ce qu'ils accepteront? Merline Leroy-Sage, la mort d'un chef ne signifie pas la fin de la sorcellerie. Jean-Pierre, il nous reste moins de 2 minutes. Vous parliez d'un dialogue tout à l'heure avec ces extrémistes. Est-ce que vous y voyez un rôle des confessions religieuses?
Donc, 2 choses ici. D'abord, au niveau des confessions religieuses, il y a un grand rôle à jouer, c'est-à-dire de produire des contre-discours. C'est-à-dire, c'est à eux, dans une certaine mesure, de faire face à ces discours qui emploient la religion. Et donc, les groupes religieux, non seulement produire des contre-discours, mais aussi participer au mouvement de la paix. Je pense aux groupes comme Santé Vidéo, qui jouent un grand rôle dans la production de la paix dans le monde. Mais aussi, pour ce qui est de dialogue, je crois que négociation, je crois que ça demeure important. Si deux groupes armés violents ou des rébellions violentes contre un gouvernement peuvent avoir des négociations, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des négociations avec des groupes extrémistes, mais sur un certain angle? C'est faisable.
Merci à Jean-Pierre pour votre contribution dans ce dialogue des religions qui traitait de l'extrémisme des religieux par rapport à la mort de Abu Bakr al-Baghdadi. Merci à tous ceux qui ont appelé pour donner leur point de vue. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine.